Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Tiphaine de Rocchini, mais aussi Samuel Bernard, Clément Salazar, Juliette Gadeau, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Alexandre Dambé. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous allons parler de la Tunisie. Demain, les Tunisiens fêteront les 6 ans du départ de Ben Ali, en effet le 14 janvier 2011. Après plusieurs semaines de manifestations déclenchées, on s'en souvient, par l'immolation par le feu de Mohamed Bouazizi et malgré la très forte répression opposée par le régime, l'ancien président était contraint de partir vers l'Arabie Saoudite où il se trouve toujours. Depuis, bien des choses ont changé en Tunisie, la transition politique s'est opérée, des élections libres ont eu lieu. Et le pays tente désormais de panser les plaies d'un régime brutal et sanguinaire. Le travail réalisé à travers les auditions publiques de l'instance Vérité et Dignité en étant l'une des illustrations. Alors quels sont les effets de ce travail de mémoire sur la société tunisienne? Permet-il de mettre un point final à la période de la dictature? Et pour le reste, comment les conditions de vie des Tunisiennes et des Tunisiens ont-elles évolué depuis? Se sont-elles améliorées? Une économie au ralenti, des tensions sociales persistantes, une menace djihadiste persistante également. D'ailleurs, le week-end dernier, de nombreux Tunisiens ont défilé dans les rues de Tunis pour protester contre le retour au pays de djihadistes qui représenteraient une grande menace pour le pays. Autant d'éléments qui constituent des défis immenses pour cette jeune démocratie tunisienne. Pour évoquer ces questions, deux invités avec nous en plateau. Sophie Bessis, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes historienne, essayiste franco-tunisienne. D'ailleurs, je rappelle que dans quelques jours maintenant, va paraître Les Valeureuses, 5 Tunisiennes dans l'histoire. Il faudra attendre encore quelques jours. Et Ella Yousfi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en management et organisation à l'Université Paris-Dauphine et vous êtes vice-présidente du Cercle des économistes arabes. Merci d'être avec nous ce matin. Avant d'évoquer ces questions autour de la Tunisie, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. Le journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient de Syrie et de Turquie.
Ma maison, je l'ai choisie parce qu'on voit la Syrie. De ma fenêtre, je peux voir mon pays. Je vois la Syrie.
Ali avait participé à la révolution syrienne dès les tout premiers jours. Il faisait partie de ces manifestants pacifiques qui demandaient la démocratie.
C'est une grande souffrance que de voir son pays si proche. Sans pouvoir y aller.
Voilà, Ali, donc un homme réfugié en Turquie après avoir fui son pays, la Syrie. Bonjour Paul Morera.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, on vous reçoit pour ce documentaire dont on vient d'entendre un extrait, Syrie, la révolution confisquée, point d'interrogation, qui sera diffusé demain sur Arte Reportage. Alors que la révolte syrienne semble désormais à l'agonie depuis la reprise de la ville d'Alep, bastion, on s'en souvient de cette rébellion syrienne depuis 2011, date du début du conflit qui a fait jusqu'ici plus de 300 000 morts. Vous êtes allé à la recherche d'un ancien rebelle et de ses camarades qui pendant plusieurs années se sont battus dans cette région d'Idlib à travers ce personnage et aussi d'autres figures qui l'entourent. Eh bien, c'est toute la révolution syrienne qu'on retrace à travers votre documentaire. Vous aviez rencontré Ali lors d'un premier tournage en 2011. Depuis, il est réfugié en Turquie, mais il a fait des allers-retours, on va y revenir. Vous avez eu du mal à le retrouver, évidemment, dans ce chaos de la guerre. Ça a rendu la tâche compliquée?
Très. En fait, pendant 4 ans, j'ai tenté de localiser. Tous ses téléphones étaient inopérants. Enfin, j'arrivais à avoir personne, quoi. Donc, à un moment donné, je me suis dit peut-être qu'il a été tué. Et puis, je l'ai retrouvé grâce à une journaliste de Al Arabiya qui a été en contact avec lui. Et donc, je suis allé le revoir en juin 2015. Il était installé près de Gaziantep, dans un petit village, face à la frontière syrienne.
Et oui, il a choisi sa maison pour voir la Syrie depuis chez lui.
Absolument. Ouais. Avec tout le groupe que j'avais filmé en 2011, puisqu'en 2011 j'étais rentré clandestinement en Syrie et j'avais en fait filmé les premiers pas de l'armée, ce qu'on allait appeler l'armée libre de Syrie. J'étais au moment, à une sorte de moment charnière où ils insistaient beaucoup pour dire non, c'est Salmi, c'est pacifique, c'est des manifestations où on va absolument pas rentrer dans la logique de la violence avec le régime. Mais où en même temps, dans la cache où on était, puisqu'on était cachés par eux, il y avait les premières Kalachnikov qui étaient amenées par les déserteurs du régime. Et j'étais là à ce moment charnière où ils ont pris la décision de tirer sur l'armée de Bachar.
Oui, d'ailleurs, on s'en rend compte parce qu'à l'époque, vous vous rendez à des funérailles, les funérailles d'un jeune homme qui a été tué par l'armée lors d'une manifestation pacifique, comme il y en avait tant à cette époque-là. Et vous dites que lors de ces funérailles, on sentait très bien que le mouvement n'allait pas rester pacifique très longtemps. Et d'ailleurs, on voit les rebelles qui ne le montrent pas ostensiblement, face à la caméra, mais ils sont déjà armés. Donc on voit qu'il y a déjà...
Ils cachent leurs armes.
Ils cachent leurs armes.
Quand j'arrive, ils cachent leurs armes, ils s'énervent quand je les filme. Évidemment, je les filme aussi parce que je suis journaliste, je suis pas là pour faire de la propagande. Et en cours de route, vraiment en cours de route, emmené par la dynamique du truc, je finis par suivre un groupe de déserteurs donc de l'armée syrienne qui vont tirer en pleine nuit, attaquer une position de l'armée syrienne. Mais après, une attaque de plus. Quoi. C'est vraiment des gens qui se faisaient tirer comme au casse-pipe et qui, à un moment donné, ont pris l'option de la violence.
Mais justement, comment est-ce qu'ils l'ont prise? Parce qu'au début, vous le racontez, le pari d'Ali et de ses camarades, c'est que le régime va être battu par l'image. Donc, ils participent à un réseau de citoyens journalistes qui tournent des images des exactions du régime pour les diffuser ensuite sur Internet. Qu'est-ce qui va faire que, justement, à un moment, il se dit qu'il faut lâcher la caméra pour prendre un fusil?
D'abord, il y a la dynamique interne d'une insurrection, d'une révolution qui devient une insurrection. Donc le fait que les décisions se prennent un peu au jour le jour. Moi, j'avais l'impression d'une espèce de grand chaos. Il n'y avait pas de commandement vertical. Les gens que j'ai rencontrés, c'était une bande de copains d'une même région qui se connaissaient depuis toujours et qui s'étaient insurgés contre Bachar. Alors après, ils se sont reliés à un mouvement plus large qui était celui de Jamal Maarouf. Mais au départ, c'était une bande de potes, quoi. Et la dynamique interne de cette insurrection a fait qu'à un moment donné, ils sont passés à la violence armée. Et aussi, je pense, grandement, parce qu'il y a eu un abandon des démocraties occidentales. Ils étaient convaincus. Moi, quand ils m'ont vu arriver, j'étais le premier journaliste qu'ils voyaient. Ils faisaient pas la différence entre un journaliste et un envoyé du gouvernement. Ils croyaient que j'allais faire une sorte de miracle, quoi. Je me souviens très bien qu'ils avaient organisé une manifestation dans un village qui s'appelle Khan Safra. Et il y avait 2000 personnes qui étaient réunies et ils m'ont porté sur leurs épaules. En se disant, vous venez nous aider, il va y avoir une no-fly zone, les avions de Bachar pourront pas nous bombarder. Et ils ont complètement confondu les rôles entre ce qu'est un reporter et ce qu'est un envoyé du gouvernement. Et bon, très vite, ils ont été détrompés par les faits, puisque dans la petite lucarne où les démocraties occidentales auraient pu éventuellement protéger cette insurrection qui était démocratique et qui était laïque, enfin au sens où on l'entend nous, personne n'a agi, quoi.
Alors, vous allez montrer justement des images de ces premiers moments de la révolution à Ali, prises notamment lors de cette manifestation pacifique. Il s'amuse à y reconnaître un certain nombre de ses compagnons, dont beaucoup, raconte-t-il, ont quitté aujourd'hui la révolution. Et à un moment, il reconnaît un homme, Razi Alhaj, qui semble provoquer chez lui de la stupeur, voire même carrément de la quiétude. Qui est ce Razi Alhaj?
Razi, c'est un personnage, une sorte de géant débonnaire qui nous accompagnait pendant notre séjour quand on sortait, quoi. Parce qu'il était un peu...
Qui vous protégeait même.
En charge de notre sécurité, oui. Ouais. Un grand type barbu, souriant, très doux, très sympa, et qui postait des sentinelles. Donc quand l'armée se pointait, Jesh, l'armée arrive, sauvez-vous, il gérait notre sécurité. Et il voit Razi, donc je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il est devenu Razi? Parce qu'il est juste sur mes images de 2011, et ils me disent aujourd'hui, c'est un émir de Daesh. Alors c'est vrai que c'est un peu un choc, et je me dis, mais moi je veux lui parler, à ce gars-là. Alors il me dit, c'est pas possible, on peut pas, si on l'appelle, on le met en danger, donc on va essayer via un système par WhatsApp, on va essayer de lui dire que tu veux communiquer avec lui. Et ça va prendre très longtemps, parce que je vois Ali en juin 2015, et je le revois une deuxième fois dernièrement, là, en décembre 2016, et en décembre 2016, on rentre en contact avec Razi, et Razi nous dit, je ne parle pas au port, vous êtes des koufars, vous êtes des infidèles. Et c'est un peu un choc pour mes amis parce qu'ils ont grandi avec lui. On parle de gens qui sont des amis d'enfance.
Et oui, il avait d'ailleurs, c'est ce que vous raconte l'ancien bras droit d'Ali, il vous dit, j'avais le souvenir d'un homme qui blasphémait sans cesse. C'était un ami d'enfance pour lui. Ouais, qu'est-ce qui fait Comment est-ce qu'il explique, lui, qu'il se retrouve?
L'argent. C'est très clair. Enfin, c'est-à-dire que pour eux... Et ça, je peux en témoigner, parce que là, au moins, je l'ai vu. Ils n'avaient rien. L'armée libre de Syrie, ils n'avaient rien. On mangeait dans la même gamelle. C'était les mamans qui faisaient à manger. Enfin, c'était vraiment, en tout cas au début, une insurrection populaire. Et les gars de Daesh, assez rapidement, finançaient leurs combattants 500 dollars par mois. Plus des positions de pouvoir, parce que Razi s'est retrouvé émir, donc il avait des hommes sous sa responsabilité, sous ses ordres. Et pour eux, en tout cas, enfin c'est leur analyse, c'est pour ça que Razi rejoint Daesh.
Il est où aujourd'hui? Raqqa, Mossoul?
Raqqa, on n'a pas l'info, mais soit Raqqa, soit Mossoul, ouais.
Et évidemment, ce qu'ils vous disent tous, c'est qu'ils en veulent beaucoup aux Occidentaux de ne pas les avoir soutenus sur le plan matériel, sur le plan financier. Et d'ailleurs, ce qu'ils vous disent, c'est qu'en réalité, s'ils sont aussi forts aujourd'hui, c'est précisément parce qu'on les a pas aidés. Ils en veulent aux Occidentaux, mais peut-être en particulier aux Européens.
Parce qu'ils attendaient beaucoup de l'Europe. Ouais, c'est, en fait, ça, en Syrie, ça naît dans cette espèce de courant des printemps arabes. C'est quasiment concomitant avec la Tunisie et l'Égypte. Et ils étaient certains qu'on allait les aider. Ils étaient certains qu'ils allaient recevoir du fric. Ils ont pas reçu d'argent. Ils étaient certains qu'il y allait y avoir une pression diplomatique pour qu'il y ait une no-fly zone au-dessus des zones insurgées, notamment à la frontière de la Turquie. Et voilà, pour eux, ça coulait de source, quoi, qu'on allait les aider. Et ils sont tombés de leur siège assez brutalement, parce qu'effectivement, il n'y a pas eu. Et encore une fois, moi, c'est mon sentiment d'observateur et de journaliste, mais il y a eu un moment, en gros, jusqu'à fin 2012, où il y avait un courant révolutionnaire syrien. Qui était un courant qui était sur nos valeurs, qui voulait la démocratie, qui voulait des élections libres, etc. Et avant que effectivement les Nusra puis Daesh installent une toute autre dynamique avec du fric qui venait des États du Golfe.
Alors justement parce que au départ, quand on regarde d'où viennent les armes, elles sont essentiellement, en tout cas au début, des armes qui viennent
des déserteurs
en réalité. Et puis au fur et à mesure, ils vont quand même avoir un certain nombre de soutiens, notamment. De la part du Qatar.
Ouais. Alors pas le groupe justement, le groupe auquel je me suis intéressé, donc leur chef ou coordinateur, parce que je pense pas que ça puisse se lire en termes de chef, mais leur commandant, c'était un type qui s'appelait Jamal Maarouf, qui un court instant a été entrevu par les Occidentaux et notamment les Américains comme non seulement un interlocuteur, mais quelqu'un qu'on pouvait aider. Il a reçu de quoi donner à chacun de ses combattants $50, puisqu'il avait 5000 hommes sous ses ordres. Et il a reçu 10 missiles TOW, qui sont des missiles, des lance-missiles, des trucs pour tuer les chars. Et c'est ce que me dit Abou Salé quand je le revois. Je dis, mais nous, on n'avait pas assez même pour une seule bataille. C'est ce qu'on nous a donné, c'était un peu comme au poker, quoi. On a mis un truc sur la table pour voir, et puis finalement, on s'est dit, non, ces types-là, ils sont pas jouables. Et on a laissé les mains libres au Qatar... et aux gens du Golfe pour, de manière extrêmement généreuse, d'après ce que me disent mes contacts, déverser du fric localement. Quoi.
Avançons un peu dans le temps. On sait que l'intervention de l'aviation russe en septembre 2015, elle a été évidemment décisive. Elle a sauvé à l'époque un régime qui était à l'agonie. Aujourd'hui, ce régime, justement, il est sauvé. Est-ce que Ali en veut précisément aux Russes d'être intervenu et d'avoir inversé comme ça le rapport de force?
Alors Ali...
On n'entend pas parler dans le documentaire,
non,
c'est étonnant.
Sur les Russes, ouais. Oui, parce que, en fait, lui, il quitte le pays avant il quitte, comme tous les gens de ce groupe de l'armée libre de Syrie, de Jamal Maarouf, il quitte le pays fin 2014, donc avant que les Russes mettent le paquet. Bon, donc lui, il a une réaction de Syrien, hein, de nationaliste, il dit « pour nous, les Russes et Daesh, c'est pareil ». Mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est que quand il retourne sur le terrain, parce que l'histoire dans l'histoire, c'est que quand je vais le voir en juin 2015, il me sort des trucs, moi, qui me laissent sur le cul. Il me dit, ouais, mais au fond, moi, je me dis, est-ce que j'ai bien fait de faire la révolution? Est-ce que c'était pas mieux du temps du régime? Ça, je me dis, mais t'as engagé toute ta vie. Enfin, c'était très, très étrange d'avoir quelqu'un qui avoue à ce point un état d'échec. Et en même temps, car l'être humain est compliqué, il se dit, non, mais je vais retourner en Syrie, je vais me battre, on va gagner, on va l'imposer, cette révolution. Et je me suis dit, bon, il se raconte des histoires. Il n'a pas les moyens de repartir.
Et alors justement, quand il y retourne en mars 2016, il est soutenu là par le régime turc.
Ouais,
pourquoi est-ce que les Turcs décident de le soutenir?
En fait, les Turcs contrôlent l'ensemble de ce qui se passe au nord, ou tente de contrôler l'ensemble de ce qui se passe avec l'armée libre de Syrie, ou ce qu'il en reste, au nord de la Syrie. Et Ali m'explique de manière très transparente que pour retourner combattre en Syrie, il s'est rendu à Ankara. Il a parlé à, il y a une cellule qui s'appelle le MOM, Military Operation, quelque chose, enfin, ou, de, donc d'Ankara, qui donne son feu vert et prête des armes à d'éventuels groupes de Syriens qui voudraient retourner combattre en Syrie.
Et l'objectif d'Ankara, c'est de contrebalancer les avancées kurdes des
exactement, derniers... exactement. Alors Ali me dit qu'ils l'ont beaucoup poussé, les Turcs l'ont beaucoup poussé à combattre dans ce qu'il appelle les villages de la frontière. Donc je dis villages de la frontière, c'est les Kurdes. Puis non, il y a aussi des gars de Daesh à la frontière. Bon, voilà. En tout cas, il me dit qu'il a refusé l'injonction turque. Ça, après, j'ai aucun moyen de le vérifier, et que lui a choisi de s'enfoncer plus loin vers le nord d'Alep, et qu'il a fait la guerre à des groupes de Daesh.
Et alors, ça c'est vrai. Justement, alors ça c'est vrai parce qu'à un moment, effectivement, il vous montre une vidéo dans laquelle on voit de jeunes hommes qui s'étaient engagés dans les rangs de Daesh, qui vient tout juste d'arrêter. Ils ont l'air d'être vraiment tout jeunes, une vingtaine d'années.
Des gamins.
Ils sont vraiment jeunes. Il vous dit qu'il savait pas quoi faire d'eux, qu'il n'avait même pas envie de les frapper tant ils avaient l'air d'enfants. Il était absolument sidéré par la détermination de ces adolescents.
Bah ça, ils veulent mourir, quoi. C'est le truc, enfin. C'est un élément très très troublant avec les combattants de Daesh qui peuvent être très jeunes, et ça je trouve que c'est une info intéressante parce que je m'en étais pas aperçu, et il a filmé ces gars-là, donc il les a arrêtés, il les filme et on voit des adolescents, donc moi je me pense tout de suite à Berlin en 45, quoi. Je me dis, moi, ils ont pas le vent en poupe, hein. Si tout ce qu'ils ont c'est des gamins de 14-15 ans, c'est que ça doit pas très très bien se passer pour eux, donc il me dit ça, et la deuxième chose qu'il me dit, c'est qu'ils sont super pressés de mourir. Et qu'ils s'explosent même 200 mètres avant d'arriver près de leur position à eux. Donc de temps, il m'a dit, j'en ai attrapé un. Je lui ai dit, mais vous êtes con ou quoi? Vous allez pas nous faire du mal du tout. Vous vous faites exploser alors que vous êtes à 50 mètres de nos lignes. Ça sert à rien. Et les gamins lui répondent, ouais, mais nous, on va aller au paradis, d'un air extatique. Et ça, c'est vraiment une donnée très forte de Daesh. C'est qu'on est face à des gens qui sont super pressés de mourir parce qu'ils s'attendent à une vie vraiment sympathique après. Et donc on est voilà bon non il est mais en même temps lui ça l'a glacé parce qu'il se dit au fond nous des fois on reprenait un village, d'abord on n'était qu'une centaine, on reprenait un village et juste après dans la nuit on n'était pas suffisamment nombreux pour tenir le village, mais dans la nuit des types arrivaient et ils pouvaient envoyer me dit-il, hein, c'est une métaphore je pense, mais quand même il me dit ils pouvaient envoyer 50 kamikazes. S'il y en avait deux qui reprenaient le village, ils reprenaient le village. Nous, on pouvait pas tenir le choc par rapport à des vagues de suicides, quoi.
Aujourd'hui, il est donc revenu en Syrie après avoir été blessé par une mine qui a explosé au passage de sa voiture. Qu'est-ce qu'il compte faire aujourd'hui? Comment est-ce qu'il voit l'avenir?
Mal. Il voit l'avenir de manière très sombre. Et c'est un des trucs qui est intéressant sur le plan de l'image, hein. C'est pour ceux qui verront le doc, c'est l'évolution de son visage entre ce type très,
il a l'air d'avoir pris 20 ans.
Ouais, 20 ans, 5 ans. Ouais, c'est un type, moi je le trouvais hyper sympa en 2011 parce qu'il avait un côté renard, quoi. Sa spécialité, c'était pas les armes, c'était comment échapper au régime. Il était très astucieux, très rigolard, il faisait des blagues tout le temps et tout. Et là, c'est un type sombre, avec des cicatrices sur le visage, puisque donc il a été blessé. Et en fait, avec pas d'énormes perspectives, parce que en réalité, voilà, donc pour survivre, ces gens sont vraiment semi-clochardisés en Turquie, donc il fait chauffeur de bus, il a pas appris un mot de turc, pour l'instant, ses gamines, il a 3 gamines, il les met à l'école des réfugiés, donc l'école en arabe, qui est tenue par des Syriens. À partir de l'année prochaine, l'Union européenne, si j'ai bien compris, cesse de subventionner cette école, donc il va les mettre à l'école turque. Enfin, il y a toute une espèce de bouleversement de son histoire personnelle qu'il n'accepte pas. Lui, il veut retourner en Syrie.
Merci beaucoup, Paul Moreira, d'être passé dans le studio. Je rappelle donc votre documentaire qui sera diffusé demain dans Arte Reportage, 18h.
35.
Syrie, la révolution confisquée, point d'interrogation. Merci beaucoup.
Merci.
Tourner tourner notre page syrienne pour se diriger du côté de la Tunisie. 6 ans après le départ de Ben Ali, et alors que l'instance Vérité et Dignité reprend ses auditions, Tunisie, les défis d'une jeune démocratie.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Et oui, demain la Tunisie va commémorer les 6 ans du départ de Ben Ali, un laps de temps relativement court qui a suffi à l'ancien régime dictatorial pour se transformer en une jeune démocratie, une performance d'ailleurs saluée, on s'en souvient, en 2015 par un prix Nobel de la paix. Combien mérité, la Tunisie continue d'avancer, notamment sur l'essentielle question de la mémoire. En novembre dernier, des millions de Tunisiens, Tunisiennes ont assisté à la diffusion des auditions organisées par cette instance Vérité et Dignité retransmise à la télévision.
Donc après 2 heures, j'ai été revisité par cet homme-là pour me menacer encore une fois. Il a dit qu'il était disposé, si je ne fais pas les aveux qu'il veut et je ne signe pas le procès-verbal, il m'a menacé de violer mon fils devant mes yeux, ou bien le contraire, c'est-à-dire de me violer devant les yeux de mon fils. Donc imaginez, c'est à ce point que cet agent-là, ce policier, est arrivé en méchanceté.
Voilà, l'un des témoignages que les Tunisiennes et Tunisiens ont pu entendre. Après une pause, ces auditions vont reprendre demain. On va se pencher sur le chemin parcouru depuis ce départ de Ben Ali, sur l'état de la démocratie tunisienne, sur ses menaces, sur ses perspectives. Sophie Bessis et Ela Youssefi sont nos invités. Marc Semo, notre partenaire du Monde, est avec nous comme chaque vendredi. Marc, on se souvient évidemment de ces espoirs qui étaient nés dans la révolte des printemps arabes. Ils ont malheureusement été un peu déçus dans un certain nombre de pays. Je pense au Yémen, la Libye, évidemment la Syrie dont on parlait à l'instant, cette Tunisie, ce berceau des révolutions arabes. C'est vrai qu'il reste une exception, un modèle de réussite. Il y a une nouvelle constitution, il y a des élections libres, il y a cette instance Vérité et Dignité sur le modèle de la commission Vérité et Réconciliation de l'Afrique du Sud. Alors évidemment, non, tout n'est tout. Pas parfait.
Pas, alors, c'est pas du tout
pas,
le même modèle.
Pas sur le même modèle, alors on va pouvoir en parler. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même ce miracle tunisien qui continue de susciter de l'admiration.
Oui, il y a un certain miracle tunisien. En France, en Occident, on avait parlé de la révolution de Jasmin. Les Tunisiens, eux, l'appellent, et c'est très significatif, la révolution de la dignité. Et alors, effectivement, elle avait balayé Ben Ali, c'était le coup d'envoi de ce qu'on appelait les printemps arabes. Alors, le mot même de printemps arabe, c'est une espèce de prémonition inconsciente. C'était une référence au printemps des peuples, à la grande vague révolutionnaire de 1848, qui 2 ans plus tard avait fini partout par des régimes terriblement réactionnaires. Et d'une certaine façon, ce qu'on a vu aussi avec les printemps arabes, un peu la même chose. Sisi, c'est plutôt pire que Moubarak, sans même parler de la Syrie. Et effectivement, l'exception est celle de la Tunisie, hein, où les islamistes, comme ailleurs, ont gagné les premières élections libres, mais sous la pression, ils ont accepté de quitter le pouvoir. Ensuite, il y a eu une coalition qui s'est faite, il y a une constitution, des élections libres. Il y a cette instance Vérité et Dignité, qui est la seule du genre, hein, parce qu'il y a quelque chose d'un peu similaire au Maroc, mais c'est différent, ça a été fait par le roi, etc. Donc, c'est assez différent. Alors, la question, effectivement, c'est pourquoi ça marche ? Est-ce que c'est l'homogénéité de la société tunisienne ? Il n'y a pas de fracture ethnique et confessionnelle. Est-ce que c'est le fait que c'est un pays qui a énormément de binationaux ? Donc, en Italie, en France, etc. Est-ce que c'est le fait qu'il y avait ces élites, quand même très bien formées, les classes moyennes ? Donc, il y a beaucoup de questions. Et en même temps, il ne faut pas oublier quand même, et je finirai là-dessus, l'ombre au tableau, c'est quand même le pays arabe qui, au prorata de sa population, a le plus grand nombre de djihadistes dans les rangs de Daesh. Les mêmes qui, il y a 5 ans, voulaient partir absolument vers l'Europe, etc., qui s'embarquaient, beaucoup ont rejoint l'autoproclamé califat, et aujourd'hui se posent, avec la déroute de l'État islamique, la question du retour et qu'est-ce qui va se passer.
Oui, ça sera évidemment un des sujets qu'on va aborder ce matin. Sophie Bessis, à la fois sur ce miracle tunisien, quelles en seraient finalement les racines, et puis peut-être justement sur la nature de cette commission, parce que vous disiez, vous me repreniez, et à juste titre, sur le fait que c'est pas du tout le modèle de l'Afrique du Sud. Il y a quelques points quand même de similitude, mais il y a évidemment des différences. Sophie Bessis.
Merci. Juste pour commenter ce que disait Marc Semo, je ne pense pas que l'on puisse encore parler de miracle tunisien. Cela me paraît un peu rapide. Qu'il y ait une singularité tunisienne au sein du monde arabe, c'est évident, elle est due à l'histoire, elle est due à la géographie également. C'est un petit pays et bien entendu, les Tunisiens et le roman national tunisien qui a été forgé depuis l'indépendance a valorisé cette question de l'exception tunisienne, cette exception de la modération, un pays qui n'a pas connu, qui n'a jamais connu de chaos malgré l'autoritarisme, etc. Mais je crois qu'il est urgent d'attendre avant de qualifier ce qui se passe en Tunisie, c'est la première chose. Maintenant, cette singularité, homogénéité, peut-être encore qu'elle puisse être discutée dans la mesure où vous avez deux polarités en Tunisie. C'est une Tunisie très polarisée entre un littoral riche, très peuplé, qui concentre les trois quarts de l'économie, et des zones intérieures qui, même culturellement, d'une certaine façon, sont différentes du littoral. Et un des grands problèmes de la Tunisie aujourd'hui, c'est justement ce retour de l'intérieur contre la Tunisie littorale des élites, ou qui est supposée être celle des élites. Donc vous avez quand même des clivages. C'est pas un pays sans clivages. Le plus grand nombre de binationaux, l'Algérie en a davantage, bien davantage que la Tunisie. Et je crois que les liens, bien sûr, avec le nord de la Méditerranée, les relations ont joué, mais peut-être moins qu'on ne pourrait le croire ici. Voilà pour un peu commenter ce que vous avez dit. En ce qui concerne l'instance vérité-dignité, je crois que il faut d'abord dire une chose, les auditions publiques ont été quelque chose d'extrêmement utile. Et il faut, je crois que les Tunisiens, comme je pense toutes les autres populations, ont l'envie d'oublier certaines choses ou de ne pas savoir. Et là, ces auditions permettent de dire que tout le monde pouvait savoir ce qui s'était passé. Et ça a été un choc, je crois, un choc tout à fait salutaire. C'est bien. Pour autant,
les Tunisiens ont appris des choses qu'ils ne savaient déjà,
ou en tout cas qu'ils ne voulaient pas regarder. Je crois que tout le monde connaissait la brutalité du régime, surtout dans les dernières années de ce régime, mais que tout le monde, je crois que le Tunisien moyen, si on peut qualifier le Tunisien moyen, connaissait beaucoup plus son côté mafieux, son côté corrompu à l'extrême, que la brutalité de la répression et la cruauté de cette répression envers les islamistes. Et je crois que beaucoup de Tunisiens l'ont découvert au cours des auditions, ce qui est une bonne chose. Maintenant, pourquoi je tiquais un tout petit peu par rapport à l'Afrique du Sud, le problème, je crois, de cette commission, c'est la question de son périmètre. Ça, c'est pas la faute de la commission elle-même, c'est la faute de la loi qu'il a créée. Et cette commission, cette instance...
qui avait été adoptée par l'Assemblée constituante en 2013.
Tout à fait. Et elle est extrêmement ambiguë dans la mesure où son périmètre commence avant même la proclamation de l'indépendance. C'est-à-dire qu'en 1955, alors que la proclamation de l'indépendance, c'est le 20 mars 1956. Donc là, il y a... Pourquoi ? Parce qu'elle a... Disons que son périmètre a été créé pour des raisons très politiques. Elle a une volonté politique, c'est, je peux pas y revenir ici parce que ce serait trop long, la question du youssefisme qui est un peu l'ancêtre du, un des ancêtres emblématiques du mouvement islamiste. Elle ne se résume pas seulement à la dictature de Ben Ali, mais elle couvre toute la période Bourguiba.
Mais ça, c'est peut-être juste, je vous demandais tout à l'heure ce qu'avaient découvert les Tunisiens. C'est peut-être précisément l'une des choses qu'ont découvert les Tunisiens, c'est cette période Bourguiba.
Et d'une elle était très connue. Hein. Ça l'a été beaucoup plus connue que la répression de l'époque Ben Ali, à mon avis.
Et là, Youssefi, sur cette commission, sur peut-être aussi le miracle, je mets des guillemets, en tout cas cette singularité tunisienne qui explique qu'aujourd'hui, elle est toujours, forcée de constater, sur le chemin de la démocratie. Il y a beaucoup de choses qui ont avancé, tout n'est pas parfait, on y reviendra. Et là, Youssefi.
Alors, je vais d'abord commenter un peu sur la question du miracle et après parler de l'instance vérité et dignité. En fait, je rappelle juste qu'avant le départ de Ben Ali, avant le soulèvement de 2010, on n'arrêtait pas de parler du miracle économique tunisien. Et cette histoire du miracle économique tunisien a créé une myopie sur les dysfonctionnements structurels de l'économie tunisienne, sur les mouvements sociaux qui existaient depuis les années 2000. Il y a eu plusieurs protestations sociales qui n'ont pas été du tout couvertes, à part le Bassamini un peu en 2008 en France,
mais sinon
à Gafsa. Mais les mouvements à Ben Gerden en 2008, en 2000. Enfin voilà, il y a eu il y a eu une accumulation de luttes sociales très importante.
D'ailleurs, c'est à Gafsa, pardon de vous couper, que va aller demain Essepsi pour le 6e anniversaire du départ de Ben Ali.
Oui,
tout un symbole.
Mais bon, il doit aller à Meknesi, là où il y a une grande protestation sociale importante. Donc, et juste après, et maintenant, après avec le prix Nobel, on confisque la bataille tunisienne contre la bataille des Tunisiens contre l'ancien régime en parlant du miracle démocratique. Encore une fois, on a envie de faire de la Tunisie un modèle qui serait complètement, qui évoluerait en déconnexion totale de la région. Moi, je dis, il y a des choses très intéressante ce qui sont en train de se passer en Tunisie. Il y a beaucoup de choses qui ont été acquises et il y a beaucoup de dynamiques positives, mais il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Et il n'y a pas de démocratie viable en Tunisie sans qu'on arrête la guerre dans la région. Donc moi, je vois pas comment la Tunisie pourrait être déconnectée de son entourage. Bon, il y a autre chose à dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, mais là, je reviens à l'instance vérité et dignité. C'était un moment très fort pour tous les Tunisiens, toutes couches sociales confondues. Pour la première fois de l'histoire tunisienne, c'était très émouvant où on voit des hommes, des femmes, des militants de gauche, des islamistes, des syndicalistes, des diplomates qui témoignent tous des atrocités du régime Ben Ali et aussi de Bourguiba. Et les auditions publiques, si j'ai bien compris, vont aussi couvrir la période aussi de la Troïka jusqu'à 2013. C'est ce qui a été dit et répété par l'instance. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que c'était un moment très fort. Maintenant, sur la question de connaissance ou pas. Bien évidemment, les Tunisiens, on a tous expérimenté les violences du régime Ben Ali, des petites violences aux traumatismes et aux tortures dans les prisons. Mais il y a une différence entre connaissance et reconnaissance. Ce qui était génial avec ces auditions publiques, c'est que pour la première fois, il y a des auditions publiques télévisées et tous les Tunisiens ne peuvent il y a eu une reconnaissance des torts qui ont été commis par ces régimes-là. Et la question de la reconnaissance est très importante pour construire une mémoire collective partagée. Maintenant, il y a deux points très importants sur lesquels je veux insister. Premier point important, c'est que l'instance vérité et dignité, et ça il faut le dire, a suscité des réactions très divergentes et très passionnées entre ceux qui trouvent que le travail de l'instance est très important et d'autres qui critiquent l'instance. Il y a eu des attaques personnelles contre CM Ben Sedrine.
Les critiques sont périmètres.
Et la critique du périmètre. Il y a eu aussi des gens qui ont trouvé le moyen de dire c'est l'instance de Narva. Donc voilà, il y a eu des critiques très violentes qui disent deux choses, qui disent que ce travail de mémoire reflète aussi les lignes de fracture et de clivage politique au sein de la société tunisienne et qui disent aussi qu'il y a encore beaucoup de travail à faire justement pour le travail de réconciliation. Dernier point important, c'est ce travail-là est très important, symboliquement est très important, mais tout reste à faire pour le processus de justice transitionnelle parce qu'il y a beaucoup de retard dans l'instruction des dossiers de jugement contre les bourreaux dont on a parlé.
Justement, c'est là où je voulais en venir parce que l'enjeu aussi qui est absolument décisif, c'est de faire cette justice pour les bourreaux précisément parce que je crois qu'il y a des chambres qui ont été spécialisées qui devraient voir le jour. Je crois qu'il y a des juges pour l'instant qui ont été nommés, mais on en est toujours là. Est-ce que vous avez confiance justement concernant cette justice pour les bourreaux cette fois? Est-ce que Sophie Bessis,
vous avez parlé de l'Afrique du Sud. Justement, le propre d'une justice transitionnelle, et c'est un peu ce qu'essaie de faire la Tunisie, c'est l'Afrique du Sud en a été le modèle, mais elle était présidée, la commission, par quelqu'un de totalement incontesté, qui était Monseigneur Tutu, ça, quand même. Mais c'est que il n'y a pas forcément de jugement judiciaire des bourreaux. Et c'est ça l'originalité de la justice transitionnelle. Et en Afrique du Sud, il n'y a pas eu, à quelques rares exceptions près, il n'y a pas eu de jugement judiciaire des bourreaux. Donc je crois que il ne faut pas demander à la justice transitionnelle tunisienne d'alimenter les tribunaux classiques. C'est pas son travail. C'est pas son travail. C'est justement, comme disait Hala Yousfi, d'essayer d'amorcer une pompe de réconciliation nationale. C'est pas encore le cas du tout. On n'en est pas du tout là.
Justement, sur ce point.
Marc Semo.
Après la chute du mur, dans beaucoup de pays de l'Est, notamment en Allemagne de l'Est, il y a eu une ouverture des archives. Qui a été un choc d'ailleurs, parce que les gens, effectivement, ont vu l'ampleur du contrôle policier et tout. La Tunisie n'a pas fait ça.
Ça a commencé.
Et est-ce qu'il compte le faire?
Oui, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Ça fait partie des attributions de l'instance.
Un risque énorme, c'est que si on attend trop, ce qui a été le cas par exemple de la Roumanie, de la Bulgarie, les pays qui ont le plus attendu, les archives avaient été largement trafiquées, ou du moins on soupçonnait qu'elles ont été largement trafiquées, donc c'est resté un espèce de poison qui a continué à...
Elle a été brûlée au moment de la Révolution. Elle a, une partie des archives a été brûlée au moment de la Révolution, quand la semaine... Mais il y en a encore beaucoup. D'ailleurs, l'instance a, dans ses attributions, l'attribution de réunir les archives.
Et les gens pourront voir leur
dossier. Mais le problème, c'est justement 1955-2013. C'est-à-dire que vous avez des archives aux Archives nationales, vous en avez à la Défense nationale, vous avez des archives du ministère de l'Intérieur. L'instance comme je le disais tout à l'heure, ne pourra pas tout faire. Il va falloir une sorte de consensus entre les instituts de recherche, entre les ministères, entre pour pouvoir traiter ces archives. Et la longueur, 60 ans, va faire que ça va être un travail extrêmement long, bien sûr.
Je voudrais qu'on en vienne, si vous voulez bien, à la question du retour des djihadistes. Dimanche dernier, il y a à peu près un millier de Tunisiens qui défilaient dans le centre de la capitale pour s'élever contre ce retour des djihadistes partis en Irak, en Syrie ou encore en Libye. On dit qu'ils sont entre 3000 et 5000, ça dépend des chiffres. Parfois, on lit aussi jusqu'à 6000. Alors, par le passé, on a entendu le chef du parti islamiste Ennahda, dont vous parliez tout à l'heure, Rached Ranouchi, qui avait envisagé une forme de repentance pour ces djihadistes tunisiens qui souhaiteraient revenir au pays, à condition, bien sûr, qu'ils se détournent de l'action violente. Il y a d'autres qui voudraient que les autorités soient bien plus dures, proposant même de les déchoir. On avait vu ça aussi chez nous, de la nationalité tunisienne. Et Sepsi a évidemment refusé. Il sait pertinemment que c'est anticonstitutionnel. Comment la Tunisie va faire face à ce retour des djihadistes qui représente quand même une menace immense pour le pays et pour sa démocratie? Et là, Youssfi. Ensuite, je vous entendrai, Sophie Bessis. Et là, Youssfi, s'il vous plaît.
Je pense que c'est une vraie problématique, hein, le retour des djihadistes. Et moi, je trouve que c'est assez terrible de voir des gens défilés pour demander qu'on n'accueille pas ces Tunisiens, parce que c'est des enfants de la Tunisie. Maintenant, je pense que la problématique ne peut pas être traitée uniquement à une échelle tunisienne. Je pense que les Européens et les Tunisiens doivent collaborer pour préparer le contexte et le cadre dans lequel on va accueillir ces Tunisiens qui vont revenir en Tunisie ou en Europe, hein, parce que c'est pas sûr qu'ils reviennent uniquement en Tunisie, et comment les écouter, et aussi comment comprendre et démanteler les filières qui amènent ces djihadistes dans ces coins-là. Maintenant, ce qui est important par rapport à cette menace djihadiste, c'est de recontextualiser, hein, l'apparition du djihadisme en Tunisie. Hein. Le mouvement djihadiste en Tunisie a apparu dans les années 2000, dans un contexte politique où on avait une succession d'événements politiques très importants dans le monde arabe, la première intifada palestinienne, l'invasion irakienne, l'autoritarisme du système Ben Ali, crise de chômage, crise d'avenir et crise de sens qui ont fait que cette jeunesse-là, au moment du soulèvement de 2011, il espérait justement un avenir meilleur une fois débarrassé de Ben Ali, et il se retrouve sans aucune offre politique digne de ce nom, capable de répondre à leurs attentes. Donc c'est les mêmes gamins qui ont défilé sans barbe dans les manifs de 2010-2011 qui sont partis au djihad, et c'est les mêmes gamins à qui l'Europe aussi a fermé ses frontières. Donc c'est un mouvement, le phénomène djihadiste, c'est un mouvement très complexe. Il y a plusieurs analyses des origines et des aboutissants. Oui. Maintenant, sur la question du retour des djihadistes, je pense que c'est une question qui ne peut pas être traitée uniquement par les Tunisiens. Il faut qu'il y ait un contexte et un cadre.
Évidemment, pas seulement par les Tunisiens, mais il faut qu'elle le soit aussi par le Tunisien. Et je me tourne vers vous, Sophie Bessis. Le président Essebsi a expliqué, quand on lui a posé la question, que les autorités feraient preuve d'une grande vigilance, je le cite, sur ce retour des djihadistes, sans expliquer les mesures, balayant l'hypothèse de les mettre éventuellement en prison à leur retour, ce que d'aucuns ont critiqué. On a quand même une impression de grande passivité des autorités tunisiennes sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a un plan pour se protéger contre cette menace?
Alors, à mon avis, il n'y a ni plan ni passivité. En fait, je pense que la réalité est celle-là. Et qu'il y a des propositions de traitement contradictoires de ces réfugiés, même au sein du gouvernement. Vous parliez du discours de Ranouchi et des islamistes sur la repentance, donc ce sont des brebis égarées, et il faut surtout pas les mettre en prison, etc. Et vous avez ceux qui font des manifestations pour leur interdire le retour en Tunisie.
Ou éventuellement l'incarcération préventive.
Que ces manifestations, c'est intéressant puisque vous aviez un reportage sur la Syrie avant notre débat, que les manifestants portaient des portraits de Bachar al-Assad dans la manifestation contre le retour des djihadistes. Très intéressant parce qu'il faut voir les connexions politiques. Il est évident que des Tunisiens qui ont des papiers tunisiens dont on peut prouver la nationalité tunisienne, la Tunisie doit les reprendre. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Doit les reprendre, doit enquêter et doit les juger selon les procédures et les termes d'un état de droit que souhaite être la Tunisie.
Est-ce qu'elle se donne les moyens de le faire, justement? Alors, parce qu'il faut-il encore les avoir repérés?
Écoutez, comment peut-on... À ce moment-là, je vous rétorquerai la question. Est-ce que les pays européens se donnent les moyens de juger l'entièreté des terroristes? Pourquoi demande-t-on à la Tunisie de faire plus et mieux que les pays européens?
Marc Semon,
les juger d'abord pourquoi?
Alors,
parce que la question qui se pose...
On peut poser la même question pour les pays européens.
Bien sûr, oui, absolument. Mais en France, c'est simple. Ils ont pris les armes dans le cadre d'une organisation terroriste contre des forces françaises.
On les jugerait pour la même
raison. Voilà, il n'y a pas de force tunisienne...
Pour la même raison. Voilà.
Deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème aussi dans le fait que Ennahda a été extrêmement ambigu pendant très longtemps vis-à-vis du djihadisme sur le thème? Ce sont un peu nos enfants qui se trompent. Ils ont des positions beaucoup trop radicales, qui sont pas bien et tout. Mais nous espérons toujours les ramener, et c'est quand même l'album de famille.
Alors, justement, j'allais y venir.
Oui, il y a une vraie forme d'encouragement d'Ennahda à l'époque.
Entre repentance prônée par Ennahda et refus de ce qu'on a appelé jadis pour l'Algérie les éradicateurs. Donc, il y a effectivement, Ennahda a dessus une position très ambiguë. Et pourquoi la nécessité d'un jugement est-elle extrêmement importante? Parce que dans tout procès, on parle. Et dans tout procès, des inculpés... des mises en examen peuvent parler et donneront peut-être les réseaux, les filières du départ vers la Syrie.
Et on verra que dans ces connexions réseaux, avec Ennahda.
Mais bien entendu, avec certains groupes sein de Ennahda, pas tout Ennahda, mais les extrémistes de Ennahda que l'on connaissait au moment de l'Assemblée constituante, on peut donner des noms, qui prônaient le départ vers le djihad en Syrie. Un des députés de l'Assemblée constituante disait « Si j'étais jeune, je serais parti en Syrie ». On connaît des mosquées qui ont organisé des filières de départ. Et c'est pourquoi des procès publics bien faits seraient extrêmement utiles pour éclaircir ces phénomènes djihadistes. J'ajouterai une dernière chose. Il est vrai que cette tentation du djihad chez les jeunes Tunisiens est due aux problèmes sociaux, etc. Mais votre premier intervenant sur la Syrie parlait du paiement. Ces djihadistes sont également payés et on paye les familles. Donc il y a aussi toute cette question de l'argent explique, non pas totalement bien sûr, mais explique en partie le grand nombre des djihadistes tunisiens. Et il y a également des preuves sur la question du paiement.
Et la Yousfi.
Juste par rapport à Ennahda et par rapport au djihadisme, il y a aussi un autre paramètre très important, c'est qu'après les dernières élections, il y a un partage de pouvoir, comme on le sait, entre Ennahda et Nidé. Et Ennahda, elle a, au niveau en tout cas du discours politique et de l'offre religieuse, elle s'est complètement déconnectée de l'islam. Enfin, en tout cas, au niveau du discours, ils disent, nous, on est moderne. L'islam, c'est une référence parmi tant d'autres dans le fonctionnement de Ennahda. Évidemment, une bonne partie de la jeunesse qui a des affinités avec l'islam politique ne se retrouve plus non plus dans l'offre politique de Ennahda. Ça, c'est aussi un point important. Et puis, je pense que toute la classe politique tunisienne, enfin, il y a un gap entre la sphère sociale et la sphère politique qui est assez terrible, parce que pendant toutes les 5 dernières années, on s'est occupé des questions politiques, de transition politique et de l'organisation des élections, et ça, on a relégué au second plan la question sociale, la question de désœuvrement de cette jeunesse-là, et là, on a un retour terrible de cette question-là, et donc ça, c'est aussi l'incapacité de la classe politique tunisienne à offrir une offre politique digne de ce nom. Absolument, absolument. Donc ça, c'est un point important. Là-dessus, je pense que...
Jusqu'où pourrait aller ce risque? Certains ont évoqué un risque de somalisation, je mets des guillemets, c'est-à-dire avec des petits territoires qui seraient contrôlés par des groupes terroristes radicaux. Il y a déjà des groupes qui posent problème dans les monts Chaambi et Semama à l'ouest du pays, près de la frontière algérienne. On aurait un appareil d'État qui, a priori, pourrait assez rapidement être totalement débordé. Ce scénario du... Est-ce que ça pourrait aller jusqu'à la chute du régime dans un chaos sécuritaire? Et la Yousfi.
Je suis pas du tout spécialiste de la question. Enfin, d'après ce que j'ai compris, c'est au niveau sécuritaire.
Il y a déjà des zones qui posent problème du point de vue sécuritaire.
Il y a des zones qui posent problème.
On l'avait vu, on s'en souvient, en mars 2016 avec cette alerte.
D'ailleurs aussi les pays voisins. Donc,
évidemment, mais apparemment, ces deux dernières années, il y a plus de maîtrise il y a plus de coopération avec les Algériens, il y a beaucoup plus de maîtrise que les premières années.
Regardez ce qui s'est passé à Ben Gardane en mars 2016, cette ville, je crois, à peu près 60 000 habitants, où des djihadistes sont apparus d'un coup.
La population ne s'est pas mise du côté des djihadistes.
Voilà, justement, je voulais y venir. Mais Sophie Bessis.
Moi, je crois que ce dont on n'a pas encore parlé et qui est absolument catastrophique pour la Tunisie, c'est que, et si vous voulez, c'est dans toute période post-révolutionnaire ou révolutionnaire, on assiste à ça, tous les exemples historiques sont légion là-dessus, il y a un moment d'affaiblissement, de délitement de l'État. Et la Tunisie connaît...
On est là-dedans ?
On est là-dedans. Moment. On est incontestablement dans un moment d'affaiblissement de l'État. Et quand l'État s'affaiblit, quand l'État... disons, perd le contrôle d'un certain nombre de secteurs, évidemment, ça se remplit par autre chose. Et aujourd'hui, la Tunisie est un pays dont les frontières sont incontrôlables, aussi bien au sud avec la Libye que à l'ouest avec l'Algérie, non pas seulement du fait des maquis djihadistes, du fait de la contrebande, des mafias, et aujourd'hui, en Tunisie, on estime que le secteur informel, regroupant tout, représente à peu près la moitié du produit intérieur brut, ce qui est extrêmement important. Et cette mafia, ces mafias, qui ont des prolongements jusqu'au cœur de l'État, et peu citées, ont également des connexions importantes avec certains mouvements djihadistes, bien entendu, comme dans tout le Sahara, comme dans le Sahel, vous avez des connexions entre djihadisme, trafic d'armes, trafic de drogue, trafic, les djihadistes se financent aussi, on le sait très bien, par toutes sortes de trafics, aussi bien avec la Libye que avec les zones du sud algérien, et ça peut aller jusque au Sahel. Donc ce délitement de l'État, ce relatif délitement de l'État explique une sorte d'anomie politique d'une part, et également dans la mesure où la Tunisie est dans un état d'anomie sociale et sociétale, dirais-je, très important, eh bien, cette fragilité-là, est une fragilité extrêmement importante, me semble-t-il.
On reviendra sur ce délitement d'État, mais j'ai encore une question concernant la Cour constitutionnelle. Et là, Youssef,
vous voulez réagir ? Enfin, pour aller dans le même sens, hein, parce qu'il y a d'autres paramètres aussi qui expliquent le délitement de l'État et la fragilisation de l'État dans ces derniers temps, et notamment les réformes imposées par les BR de fond, parce que ce qu'on a, ça c'est aussi très important, hein, parce que le nerf de la guerre, c'est économique, et il y a une crise économique. Tunisienne très importante. Et qu'est-ce qu'on nous offre et qu'est-ce qu'on nous demande? C'est de continuer avec le même modèle économique de Ben Ali qui a montré ses dysfonctionnements. Et le packaging des réformes structurelles imposées par les bailleurs de fonds, on a les partenariats publics-privés, on a les accords de l'ALECA, les accords de libre-échange avec l'Europe complets et approfondis qui vont perdurer, les mêmes termes de l'échange asymétrique avec la Tunisie qui veut l'étendre au secteur des services et de l'agriculture, et c'est une catastrophe parce que il n'y a pas eu un bilan sérieux des méfaits ou des effets négatifs des accords de libre-échange de Barcelone entre la Tunisie et l'Europe. Et un autre phénomène, enfin vous avez tous entendu parler de la dernière conférence de l'investissement en Tunisie, donc le slogan c'est le mythe de l'investissement direct étranger, et encore une fois on passe sous silence les problèmes de l'économie tunisienne, à savoir on focalise sur le secteur des services, le textile et le tourisme qui emploie une main-d'œuvre peu qualifiée, alors qu'on a un chômage de diplômés, il y a une refonte totale
Sur quoi il faudrait mettre l'accent alors?
Il faut mettre l'accent sur... l'agriculture, c'est un secteur stratégique très important, là il faut que...
Surtout qu'il y a des capacités extraordinaires.
Voilà, les nouvelles technologies, parce que...
J'ai vu qu'il y avait une production d'oranges annuelle là, en Tunisie qui est absolument exceptionnelle, c'est
non seulement c'est pas transformé, il n'y a pas de...
Il y a un travail sur la valeur ajoutée aussi des produits agricoles, il y a une refonte totale du système agricole, donc il y a plein de chantiers très importants. Et puis la deuxième réforme structurelle imposée par la Banque mondiale, c'est celle de la décentralisation qui va finir l'entreprise du démantèlement de l'État tunisien qui a commencé dans les années avec le plan d'ajustement structurel en 86. Donc les défis sont énormes et là, ce qui est aussi en perspective, il faut le voir, c'est de créer, de faire de détruire ce qui reste de souveraineté nationale en Tunisie et d'en faire un marché des marchandises et aussi des identités. On va trouver tout. Et donc là, c'est aussi un point très important. Donc là, c'est aux hommes politiques, à l'élite gouvernante tunisienne, comment elle va répondre à ces défis-là.
Tout dernier point, si vous voulez bien, Sophie Bessis, on arrive presque au terme de cette émission, mais il y a un point qui est très très important, c'est celui de cette Cour constitutionnelle, qui aujourd'hui n'existe toujours pas. Qu'est-ce qui fait que... Ben, c'est quand même elle, cette Cour constitutionnelle, qui est censée garantir le respect de la fameuse nouvelle constitution de 2014, qui avait été saluée ensuite par le prix Nobel.
Elle sera créée.
Elle est toujours pas là, cette Cour constitutionnelle.
Elle sera créée, mais...
Elle est toujours pas.
Soyons sérieux. Bon, effectivement,
non, mais il y a des blocages, il y a des blocages réels.
C'est un problème. Mais enfin... les élections ont eu lieu en 2014, c'est-à-dire il y a 2 ans.
Oui, j'entends bien.
Et on ne peut pas demander... Alors, je suis tout à fait pour la création la plus rapide possible de la Cour constitutionnelle. La question n'est pas là. Enfin, 2 ans, c'est rien. C'est rien. C'est-à-dire que Ben Ali est parti il y a 6 ans demain.
C'est pas une critique, Sophie Bessis. Ce que je veux dire, c'est que derrière, il y a des raisons pour lesquelles ça n'émerge pas, ça n'est pas créé. Il y a des blocages politiques.
Bien entendu qu'il y a des raisons. Bien entendu qu'il y a des blocages politiques, parce que la constitution tunisienne a cette particularité de pouvoir être interprétée de toutes les façons possibles. C'est une constitution de compromis.
Comme toutes les constitutions.
Non. Napoléon disait il faut une constitution courte et incompréhensible, plus ou moins. Elle n'est pas incompréhensible et elle est très longue, la constitution tunisienne. C'est une constitution de compromis puisqu'elle a été élaborée à l'issue, vous le savez, du dialogue national dont les membres ont eu le prix Nobel, et donc qui dit parfois la chose et son contraire, c'est-à-dire qui acte des conquêtes tout à fait importantes comme la liberté de conscience, qui est quelque chose de très important, l'égalité des citoyens et des citoyennes, mais qui en même temps donne des cages, bien évidemment, à l'autre grande force politique qui est Ennahda, qui est le parti islamiste, et donc... l'application de cette constitution est une question de rapport de force politique. Parce qu'on peut tout y trouver. C'est une espèce de supermarché, cette constitution. Et donc, à mon sens, la difficulté de mettre en place la Cour constitutionnelle dérive également de cette bataille autour des principes constitutionnels eux-mêmes. Mais moi, je ne suis pas totalement pessimiste là-dessus. 2 ans, c'est pas long. Hein, il faut pas... En 6 ans... Vous avez eu une quantité de changements incommensurables dans ce pays, dans un laps de temps, en définitive, très court.
On est absolument d'accord. Hein,
oui. Il ne faut pas oublier. Maintenant, effectivement...
on parlait tout à l'heure de miracle tunisien et vous avez tout de suite critiqué.
Sur la question des bailleurs de fonds, effectivement, moi je crois que je parlais tout à l'heure du délitement de l'État et du surgissement d'une économie mafieuse en lien avec les chaos régionaux qui est extrêmement dangereuse. Deuxième danger, c'est effectivement le maintien d'un modèle économique tout à fait obsolète, mais j'irai un peu plus loin là-dessus que El Ayoussi. Bien entendu, les bailleurs de fonds ne connaissent rien d'autre que le modèle libéral et ne comprennent pas qu'il faut trouver autre chose, mais ce que je reprocherai peut-être au gouvernement actuel, malgré toute sa bonne volonté, c'est d'être dans la doxa, d'absolument pas contester cette doxa. Et donc c'est une doxa qui ne peut être que dommageable aux équilibres à long terme sociétaux, économiques et sociaux de la population tunisienne.
Merci beaucoup en tout cas à toutes les deux. On voit les avancées sont aussi importantes que les défis qui restent à relever. Merci infiniment Sophie Bessis et Ella Youssefi. On retrouvera les références de vos ouvrages sur la page de Culture Monde, notamment La double impasse universitaire à l'épreuve des fondamentalismes religieux et marchands pour vous, Sophie Bessis, ainsi que Les Valeureuses. Il faudra attendre encore quelques jours pour pouvoir acheter ce livre. Merci beaucoup également à vous.
J'aime le plus marrant que le premier.
Merci également à vous, Marc Sémour, à notre partenaire comme chaque vendredi. Et tout de suite, on retrouve Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors depuis cette semaine, vous nous parlez de post-vérité. Vous avez cité des articles qui critiquaient la notion de post-vérité, des commentateurs qui s'inquiétaient du rôle joué par ce nouveau mépris pour les faits dans plusieurs élections récentes. Trouve-t-on des défenseurs de ce nouveau régime intellectuel, Brice ?
Pas beaucoup, il faut le reconnaître. Néanmoins, on tombe sur des anticonformistes que l'idée même de post-vérité énerve. Ainsi, Brendan O'Neill, le rédacteur en chef du site libertarien en ligne Spiked, est agacé qu'on cherche du côté des médias légitimes à expliquer la victoire du Brexit ou de Trump par l'intervention dans les campagnes électorales de sites produisant à jet continu des fausses informations. Ces sites, souvent situés dans les Balkans et alimentés par de très jeunes gens, peut-être payés par la Russie, ont lancé toutes sortes de fakes. Des messages comme « le pape a dit qu'il aimait Trump » ou une rumeur selon laquelle le staff d'Hillary Clinton se livrerait à des orgies pédophiles. Les élites libérales invitent désormais les médias à combattre pied à pied ces rumeurs et à rétablir chaque fois la vérité. Mais objecte O'Neill, la crise de l'objectivité en Occident a commencé bien avant que ces gamins macédoniens soient nés. N'est-ce pas, en effet, dans les universités où ont été formés ces journalistes qu'on a clamé qu'il fallait renoncer au mythe de l'objectivité, qu'on a appris aux étudiants à se moquer de la raison comme d'une invention du pouvoir colonial et à mettre en question la science mâle? Il faut en finir avec un certain paternalisme qui est la négation même des présupposés de notre démocratie. Si l'on juge en effet que l'opinion publique est incapable de discerner les vraies informations des fausses, si on méprise les masses sous-informées, comme ils disent, comment peut-on reconnaître aux majorités le droit de décider du destin des nations? Dans The Guardian, on décrit par exemple que les gens croient facilement aux mensonges qui font appel à leurs préjugés. On s'imagine que les gens se déterminent en fonction de rumeurs qu'ils ont vues circuler sur Twitter ou sur Facebook. Mais sur ces bases, poursuit O'Neill, viennent les solutions paternalistes. On réclame des garde-fous, des gardiens de la vérité, des professionnels bien équipés en ressources cognitives qui sélectionneraient pour le public les vérités certifiées et écarteraient les mensonges et les erreurs. Et cela concerne en particulier le réchauffement climatique qui ne devrait pas donner lieu à discussion. Mais derrière cette prétention des élites à contrôler ce qui doit ou non être présenté au bon peuple, il y a l'idée qu'il est dangereux d'avoir laissé à chacun, grâce à Internet, la possibilité de se prononcer à égalité avec les donneurs de leçons autorisés. La démocratie, oui, mais à condition qu'elle soit redressée, gérée sous surveillance. Aux yeux du rédac-chef de Spiked, cela rappelle étrangement les inquiétudes des élites lettrées face à l'irruption de l'imprimerie au XVe siècle. Les autorités intellectuelles de l'époque, à savoir l'Église catholique en l'occurrence, prédirent que si chacun avait accès librement aux textes sacrés, toutes sortes d'hérésies risquaient de se manifester et de se répandre auprès d'un public insuffisamment au fait des choses religieuses. L'élite libérale aujourd'hui nous presse d'adopter les points de vue qui sont les siens au nom de la science, de l'économie, de l'avis général des experts. Elle doute donc de la capacité du public à démêler par lui-même la vérité de l'erreur et elle réclame, sans oser l'avouer, des formes de censure. Le paradoxe est que cette inquiétude provient des milieux qui, il y a peu de temps encore, invitaient tout un chacun à se faire journaliste citoyen et repensaient leur métier sur la base d'une information qui devait monter de la base et non plus descendre depuis des sommets.
Mais tel est prix qu'ils croyaient prendre. Est-ce qu'on a d'autres exemples d'intellectuels qui réfuteraient l'idée de post-vérité?
Oui, j'ai trouvé une certaine Claire Fox, une empêcheuse de penser en rond, qui a un long passé trotskiste. Elle a appartenu 20 ans au Revolutionary Communist Party de Grande-Bretagne, mais qui dirige à présent son propre think tank, The Institute of Ideas, et publie dans la presse conservatrice. Elle va dans le même sens. Si Hillary Clinton a perdu malgré son armée de fast-checkers, cela ne signifie pas que les électeurs américains sont des nigauds, faciles à manipuler, écrit-elle, mais que l'opinion a pris conscience que l'élite cosmopolite et libérale utilisait l'argument d'autorité, les statistiques, l'avis des experts, le recours à la science, pour interdire que soient posées les questions de fond. Les électeurs ont le sentiment que les faits qui lui sont opposés sont sélectionnés d'une manière partisane. On cherche à disqualifier ces votes, poursuit-elle, en les attribuant à des sentiments négatifs comme les frustrations et les colères, mais les grands bouleversements sociaux, les révolutions qui ont fait bifurquer l'histoire, ont-ils jamais eu d'autres combustibles? Et elle évoque le philosophe Bertrand Russell qui disait que s'en tenir à une vision étroite de la réalité empirique, celle qu'on a sous les yeux, condamne l'observateur au statu quo. Les ruptures historiques exigent de l'imagination. Tout le projet de la politique est de lancer un défi à l'idée que l'avenir est tracé d'avance, écrit-elle. Un pas de plus dans cette direction et on aurait un portrait de Donald Trump en réincarnation de Lénine, puisqu'on est en 1917, 100 ans après en tous les cas, le président américain ne va-t-il pas franchir le seuil de la Maison Blanche 100 ans après la prise du Palais d'Hiver?
Donald Trump, donc en Lénine. Merci beaucoup Brice Couturier pour toute cette série consacrée à la post-vérité qu'on peut retrouver bien sûr sur la page de France Culture dans la rubrique Le Monde des Idées. Merci beaucoup Brice, à la semaine prochaine.